écouter les chansons de Carlos Gardel et de Juanito Valderrama. Passa ses journées prostrées dans sa chambre, cessa de poser des questions à son mari et offrit un visage indéchiffrable chaque fois qu'il était devant elle, question de l'événement. Son chagrin était sans mesure. Il se mua en folie lorsque Rosita lui rapporta que la rumeur courait dans le village que Diego avait abattu son frère. Car les villageois étaient bien plus renseignés sur l'inimitié entre les deux hommes qu'on aurait pu l'imaginer. Par on ne sait quelles voies obscures, les villageois finissaient toujours par découvrir les choses les plus cachées, les plus intimes, et échafaudaient à partir de ces découvertes des fictions romanesques auxquelles ils finissaient par croire. L'attaque de décembre déchaîna leur fiction. Et celle-ci, se conjuguant à leur désir invétéré de trouver des coupables à toute chose, ils en vinrent à désigner Diego, unanimement et sans preuve aucune, comme le meurtrier de Rosé. Cette calomnie qui rendit Monse folle de douleur plongea Diego dans un désespoir d'autant plus profond que lui-même à présent s'accusait, après s'en être d'abord défendu, d'avoir conduit, par son imprévoyance, des jeunes hommes à la mort. Il s'ivrogna avec ponctualité. Chaque soir, avant d'aller se coucher, il prit l'habitude d'avaler de l'eau-de-vie en quantité telle qu'il tombait terrassé sur son lit, où il s'endormait brusquement avec des grognements de porc. Mais parfois, avant de chuter dans le sommeil, le désir le prenait de faire l'amour à sa femme. Il la suppliait, elle refusait. Il immobilisait ses bras avec une force terrible. Elle lui disait « Laisse-moi, por favor ». Il l'écrasait de tout son poids. Elle se débattait en roulant sa tête en tous sens. Il essayait de ses genoux d'écarter ses cuisses qu'elle tenait serrées. Elle lui disait « Ne me touche pas, ne me touche pas ou je hurle ». Il soufflait bruyamment sur son visage, son haleine avinée. Elle se débattait comme un animal sauvage. Il lui murmurait « Te quiero, nena » d'une voix traînante, pathétique d'ivrogne. Elle le repoussait avec dégoût, lançant de grands coups de pied pour se dégager de son étreinte. Puis elle se mettait à crier très fort, au risque de réveiller toute la maisonnée. « Arrête, arrête, arrête !» Et elle finissait par lui échapper, se réfugiant dans la chambre voisine où elle s'enfermait à double tour. Diego tombait d'un bloc dans un sommeil de brute, se réveillait en sueur, se tournait vers Monse, la cherchait à tâtons, mais la place était vide. Il se levait, sa tête était lourde, le sol de la chambre tanguait, il chancelait. À peine était-il debout que sa douleur se rallumait, intacte, et que ses remords l'assaillaient avec la même virulence que la veille. Alors, il se livrait pour les combattre à la récapitulation interminable de ses justifications. S'il avait eu quelquefois le désir que José s'en allât le plus loin possible, s'il avait vécu sa présence comme une continuelle provocation, si son visage lui était apparu souvent comme un reproche, s'il avait observé sa chute avec une sombre, une indicible satisfaction, jamais, 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 il n'avait souhaité sa perte, c'est ce qu'il se répétait. Un jour, qu'il se rendait à la mairie sans le moindre enthousiasme, il décida de faire un détour par le café de Bendición. Quand il entra, le silence se fit. Il eut envie de repartir séance tenante, mais n'en laissa rien paraître. Il commanda une anisette, l'avala d'un trait, salua du menton le groupe de vieux qui jouait au domino, puis retraversa la salle que l'hostilité à son endroit avait rendue muette. Il rentra chez lui extrêmement troublé de constater que quelque chose était irrévocablement brisé entre lui et les gens du village. Un de ses jeunes assistants le confirma. On disait désormais avec des sourires entendus qu'à la mairie, ça sentait le roussi. Dès lors, on le vit changer. Lui, si chatouilleux sur son apparence et toujours impeccable, n'apporta désormais aucun soin à sa mise, ne ferma plus sa vareuse dont les poches bâillaient et laissa sa chemise sortir de son pantalon. « On dirait un mendiant », lui disait Doña Pula. Parallèlement, l'assurance en ses anciennes convictions commença de vaciller. Le corps mort de José gisait dans son esprit, et lui faisait regarder toute chose autrement.